Football maintenant aux amateurs de sport. On va faire ça en deux temps. NFL tout à l'heure, notamment la performance incroyable de Lamar Jackson hier, mais quelques nouvelles et commentaires sur la situation des Alouettes avec notre ami, bien sûr, qui demeure Bruno Hépel. Salut Bruno.
Salut Mario.
Alors, on va commencer avec la situation des Alouettes qui ont bien du mal à conclure une transaction. Ça, c'est plus la Ligue canadienne de football par rapport à l'identité des nouveaux propriétaires, mais par rapport à la direction générale de l'équipe, on n'est pas capable d'embaucher un DG et le dernier candidat en lice a expliqué à des proches sa décision. Il s'agit de Ryan Rigmaiden par le fait qu'il trouvait qu'il y avait trop de drapeaux rouges dans l'organisation montréalaise. Commentaire.
Ben, c'est sûr qu'on n'aime pas entendre ça. Surtout que ce qu'on comprend, c'est que c'était le troisième candidat. On aurait parlé à déjà deux autres candidats avant Rigmaiden, qui lui serait le troisième choix, si on veut, parce que tu le fais dans l'ordre, ou à moins que tu n'aimes pas l'entrevue que tu as fait. Mais en bout de ligne, on est rendu à trois candidats qu'on a rencontrés et aucun a été engagé. Et ce qu'on dit, c'est que plusieurs ont refusé l'emploi. Fait que c'est sûr que là, on se dit, qu'est-ce qui se passe là pour que on ait autant de difficultés à convaincre quelqu'un qui était le directeur du recrutement là, chez les Blue Bombers. On parle de vraiment une belle promotion, devenir GM dans la Ligue canadienne de football, qui refuse en disant qu'il y a trop de drapeaux rouges. Fait que j'ai hâte de voir, première des choses, est-ce que le drapeau rouge, c'est pas qu'on n'a pas de propriétaire en ce moment et que les gens en question se disent « OK, moi je m'en viens dans quelles conditions, travailler avec qui? » Est-ce que ça, c'est un des drapeaux rouges? Je pense que oui. Est-ce qu'on regarde, le fait qu'on n'a pas de premier choix au repêchage pour les deux prochaines années, je pense que c'est un autre drapeau rouge. Tu sais, c'est pas une job qui est facile.
Et le fait que le gars va arriver puis il n'y a pas de grosses décisions à prendre, le coach est déjà là. Finalement, c'est-tu un adjoint à Carrie Jones qu'on veut ou c'est un DG, un boss?
C'est ça que je me demande. T'sais, est-ce que le gars va avoir les mains liées? On n'a aucun détail. En bout de ligne, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est plus complexe qu'on pensait de trouver un GM pour les Alouettes, de toute évidence. Et on dirait quasiment que c'est plus dur aussi de compenser de trouver un propriétaire, parce que là, ça fait depuis le mois de mai là, l'année passée, ou à peu près, là, que ça dure, cette histoire-là. Fait que réglons donc les propriétaires, trouvons un GM, puis pouvons-nous passer à autre chose, s'il vous plaît, parce que là, tout va bien sur le terrain, on l'a vu, tout va bien avec les entraîneurs, il reste qu'à régler le problème au niveau de l'organisation, tout ce qui se passe en haut de ça, et de toute évidence, c'est pas réglé jusqu'à présent.
Quand tu pensais de la déclaration de l'ineffable Jim Popp qui a dit si vous avez le goût d'un championnat, je suis disponible.
Mais je veux juste te dire, mais on entend même aussi que les Whatnall seraient peut-être intéressés de se rejoindre à un groupe. Là, on retournera pas dans nos vieilles bottines, s'il vous plaît. Là. Hey. Ça, je pense qu'il faut passer un autre appel. Mais le problème des Alouettes, c'est que plus la liste s'épure comme ça, plus tu tombes dans des vieux de la vieille comme Jim Popp, Tillman, tu sais, là, tu sais, à un moment donné, tu vas épuiser ta liste, là. Ça fait bien que quelqu'un nous dise oui, là.
Ah oui, puis il n'y a pas personne. Le Québec n'a pas pu mettre au monde qui que ce soit, là, dans toutes ces années d'histoire-là, capable de diriger une équipe de football. À notre grand désarroi, Bruno, nous sommes des ignorants en football. Et donc.
Gali Machocha est encore ignoré, tu sais.
De
ce qu'on comprend, puis je suis pas au courant s'il est intéressé à l'emploi ou pas, je peux juste mentionner son nom parce que c'en est un, ça, qui a de l'expérience comme directeur général dans la Ligue canadienne de football.
Et peut-être pour lui, comme pour les autres, c'est pas une situation intéressante en ce moment parce qu'il y a, en tout cas, moi, je sais pas si c'est des drapeaux rouges, là, sans doute, mais il y a beaucoup de points d'interrogation, très certainement. Fait que c'est ça qu'on sait pour l'instant. En attendant, on sait une chose, c'est que Lamar Jackson, il y a pas personne qui est capable de l'arrêter dans la NFL. Il a encore mené son équipe, les Ravens de Baltimore, vers la victoire. Il a surpassé la marque de Michael Vick. L'avais-tu vu venir, ce carré-là, Lamar Jackson? Est-ce qu'on savait qu'il allait secouer la NFL comme il le fait?
À ce point, je ne pense pas, parce qu'on avait des doutes sur le fait qu'il était peut-être pas un bon passeur. On savait que c'était un bon porteur de ballon, et on disait que c'était un porteur de ballon qui jouait corps arrière. Et c'est pas ça qu'il nous montre présentement. Je m'excuse, là, mais il est en train de révolutionner la position de porteur de j'ai dit porteur de ballon, t'imagines? Mm-hmm. Parce qu'hier, encore une fois, même si tout le monde, Mario, sait qu'il va courir dans le match, et qu'on va appeler des jeux de course pour lui, ben, il réussit à courir semaine après semaine. Ça, on savait qu'il était capable, mais de le faire à ce point, facilement, devant des athlètes de la NFL, comme s'il était dans le parc avec ses amis qui couraient plus vite que tout le monde, ça, je ne m'attendais pas à ça, puis je pense que personne avait prévu ça. Et ce qu'on savait surtout pas, c'était sa qualité de passeur. Là, il est rendu, il y a encore 5 passes de toucher là, dans le match d'hier. 5 passes de toucher. As-tu une petite idée, là? Il n'y a pas beaucoup de carrières qui
sont non, c'est impressionnant.
Ah oui, puis lui, il l'a fait plusieurs fois. Et surtout, il lance pratiquement jamais d'interception. Je pense que c'est 22 passes de toucher et une interception de lancer pour lui dernièrement dans ses derniers matchs sur sa séquence.
Ce qui est le fun au plan stratégique, offensivement parlant, là, c'est que il pourrait attirer tous les réflecteurs sur lui, mais le fait de gagner autant de verges, mais le fait de valoriser ses receveurs en leur permettant d'enregistrer des touchés, ça doit garder le moral de tout le monde et faire en sorte que tout le monde se sente important. Parce que Mané, tu peux pas être tout seul à voler le shot tous les matchs non plus. Hein? Je sais pas ce que tu penses de cet aspect-là.
Ben, cet aspect-là est très important. Il distribue le ballon. Oui. À chaque fois, il finit, là. Il va compléter, mettons, 13 passes dans un match. Tu vas regarder le box score, tu regardes, il y a 7 receveurs différents qui ont touché au ballon. Donc, tout le monde est utilisé dans l'attaque des Ravens. Mark Ingram, le porteur de ballon en arrière, lui, il est content d'être parti des Saints puis d'avoir signé avec les Ravens comme jamais parce qu'il y a du fun. Puis surtout, ce qui fait de tout ça une belle histoire, c'est l'humilité de ce gars-là. Malgré tout son talent, le fait qu'il va être le joueur par excellence de la NFL, il est d'une humilité absolument incroyable avec les médias et avec les joueurs autour de lui dans l'équipe. C'est un gars qui va vraiment être bon longtemps s'il continue comme ça, puis qui va amener le succès autour de lui parce que tout le monde veut jouer avec lui.
Et juste pour finir là-dessus, tu dis qu'il va être bon longtemps. Penses-tu qu'il peut jouer longtemps comme ça sans se faire blesser?
Ben, je dis longtemps. Je pense pas qu'il va jouer à 35 ans parce que son style de jeu... Il va falloir qu'il perfectionne vraiment la passe. Il est déjà en train de le faire. Tu sais, la voie aérienne, parce qu'à un moment donné... À 33, 34, 35 ans, là, courir avec le ballon comme il le fait, il va perdre un petit peu là, la petite fast twitch là, qu'on appelle là, au niveau football, la petite fraction de seconde qu'il a sur tout le monde présentement. Mais il y a 22 ans. Écoute, c'est pas compliqué. Là. Le gars qui va gagner le Heisman, probablement, s'appelle Burroughs. Le Heisman, ça, c'est le joueur par excellence universitaire au collège aux États-Unis. Il est plus vieux que Lamar Jackson, qui va être le joueur par excellence dans la NFL. Il y a 22 ans, ça, on oublie ça, là. Fait que quand même qu'il jouerait jusqu'à 30 ans, c'est quand même une carrière de pas loin de 10 ans qu'il va avoir, là. Fait que je m'attends qu'il soit là très longtemps, mais peut-être pas jusqu'à 35, mais il n'y a pas besoin pour avoir une belle carrière, là.
Ben non, ben non.
7, 8, 9, 10 ans dans la NFL, là.
C'est
déjà une belle carrière.
À ce niveau-là, là, il y a pas de problème, certain. OK, un petit mot sur quelques matchs à l'horaire en fin de semaine. Houston, Tennessee, deux équipes à 8 et 5, Bruno.
Deux équipes à 8-5, deux équipes qui jouent dans les trois prochaines semaines, deux fois une contre l'autre. Tennessee qui a vraiment le vent dans les voiles, attaque au sol, dévastatrice, avec Derrick Henry, qui est pour moi le meilleur porteur de ballon présentement dans la NFL. Il a avec lui un carrière qui s'appelle Ryan Tannehill, qui est arrivé de Miami, tout le monde pensait qu'il était fini, a relancé la saison des Texans d'Houston lorsqu'on a mis Marcus Mariota sur le banc. Meilleure décision de Mark Vrabel depuis qu'il est entraîneur-chef de loin, de mettre Mariota sur le banc. Et cette équipe-là me fait peur. Je pense qu'elle fait peur à tout le monde. Le match est au Tennessee. T'affrontes les Texans qui viennent de se faire varloper face aux Broncos. Ceci étant dit, ils ont toujours gagné après avoir perdu un match, les Texans, cette année. Mais je pense qu'ils vont perdre cette fois-ci parce que les Texans sont pour moi une équipe qui a le vent dans les voiles, une équipe complète et surtout plus robuste que celle des Texans.
Quelques commentaires en rafale en commençant par le match Chicago-Green Bay, Bruno.
Ben, Chicago, ça va être difficile, là, c'est 7-6, mais les Packers, faut faire attention. Les Bears, c'est une très bonne équipe. Mitch Trubisky vient de jouer son meilleur match de la saison. Donc, la défense des Packers, qui joue pas tellement bien par les temps qui courent, va devoir être alerte. Et on a du côté des Bears, on le sait, Khalil Mack, une défense qui est vraiment féroce, capable de dominer sur le front et de mettre de la pression, capable de donner des problèmes à Aaron Rodgers. Il ne faudrait pas qu'on l'échappe. On est en position pour contrôler notre destinée du côté des Packers, mais on affronte une équipe qui est dangereuse. Ça, là, ça pourrait être une surprise aujourd'hui, cette semaine. Puis moi, je serais pas surpris si les Bears battaient les Packers, même si les Packers devraient l'emporter normalement quand tu regardes là, l'affiche des deux équipes.
On finit ça avec des prédictions. Buffalo-Pittsburgh, Bruno?
Buffalo-Pittsburgh, je vais y aller avec les Steelers de Pittsburgh pour leur défense. On vient d'accorder 6 sacs du corps du côté des Bills face aux Ravens la semaine passée et les Steelers mènent la ligue pour les sacs du corps. Je pense que les Steelers gagnent ce match.
Et en terminant, les Rams sont revenus en vie la semaine dernière. Ils affrontent une équipe qui cherche un peu d'air pour survivre, les Cowboys de Dallas.
Prédiction. Ouais, les Cowboys qui tentent désespérément de se mettre sur le sentier de la victoire. Les Rams qui ont le vent dans les voiles. Je pense que les Rams vont aller à Dallas gâcher le party, malmener Dak Prescott avec la défense et Aaron Donald. Jared Goff, que je te dis, a le vent dans les voiles. Ben lui, là, vraiment, avec Todd Gurley, présentement, joue ce qu'on attendait d'eux. Je pense que les Rams causent peut-être une surprise, on peut appeler ça une surprise, en allant à Dallas gagner et se remettre dans le portrait des éliminatoires.
Ben, on regarde ça avec grand intérêt, puis au plaisir de s'en reparler lundi, comme à l'habitude, mon cher Bruno. Bonne fin de semaine.
Salut Mario, bonne fin de semaine à tout le monde.
Bye bye, un gros merci. Et juste avant d'aller plus loin, je vous invite à participer à une promotion, surtout si vous êtes des amateurs de foot, mais le foot qui joue au bout du pied, le soccer. L'Impact de Montréal vous offre des forfaits, 3 matchs à partir de 79$. C'est l'initiative marketing de l'Impact pour le début de la prochaine saison. Donc, si vous aimeriez gagner votre trio pour 2 personnes, vous vous inscrivez au 985FM.ca. Racontez-nous votre plus beau souvenir de l'Impact de Montréal en quelques lignes et écoutez les amateurs de sport, bien sûr, en semaine pour gagner vos matchs. Le forfait comprend des billets pour le match numéro 1, c'est-à-dire le premier match de la Ligue des champions en CONCACAF, date à déterminer. L'Impact de Montréal qui va affronter une équipe du Costa Rica autour du 25, 26 ou 27 février. Le forfait inclut le match numéro 2, c'est le match d'ouverture de la saison MLS au Stade Olympique et un troisième billet dans le même forfait pour 79$, le premier match de l'Impact sur la surface du stade Saputo, date également et heure à confirmer. Alors, allez vous inscrire au 985FM.ca et dans quelques instants, hockey junior au menu. Les sujets sont nombreux avec Stéphane Leroux.